dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer, une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir, un entrepreneur, un créatif ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon allez, si quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Ce matin, je suis ravie d'être à l'hôtel Panache pour rencontrer Mylène Niedzialkowski, fondatrice de Georges. Georges, peut-être que dit comme ça, vous ne remettez pas encore cette marque, mais vous verrez que lorsqu'on va parler entre autres de pales, leur suspension iconique à pétales, vous allez très vite vous mettre dans l'ambiance. En l'occurrence, une ambiance toute simple, autour de la matière et de l'artisanat avant tout. Bonjour Mylène.
Bonjour.
Moi, j'aime pas trop raconter ma vie dans le podcast, je le fais jamais. Je laisse toute la place à mon invité, mais quand même, je dois bien dire que j'ai un petit garçon qui s'appelle Georges, qui est un prénom que j'adore par-dessus tout. Donc, j'ai tout de suite envie de vous demander, et vous, pourquoi ce nom Georges pour votre marque ?
En fait, je suis née la Saint-Georges, le 23 avril.
Ah oui.
Donc voilà, vu que j'ai déjà deux garçons, c'était voilà mon troisième projet, on va dire, si on peut parler de projet. Donc c'était un autre garçon.
Ah super, on va tout simplement. Alors comment est née, on va commencer peut-être comme ça, comment est née cette marque ? Il y a combien de temps ? Quel type de marque vous vouliez créer ?
Au tout début, il y a 10 ans, 11 ans même maintenant, à la naissance de mon deuxième garçon, j'ai voulu créer une marque à la base d'objets de décoration pour enfants. Donc pour mes propres enfants. L'idée était d'avoir des objets qu'on puisse balader dans la maison, de couleurs un peu raccord avec notre salon et pas forcément des couleurs primaires. Donc j'avais créé un tapis de jeu en lin lavé avec un rembourrage issu d'anciens futons ou de matelas militaires. Donc j'allais beaucoup chiner chez les Maüs locaux. Et j'avais fait des petits futons pour enfants, des serre-livres avec du bois des Pyrénées. L'idée était déjà un petit peu de sourcer au plus près de chez moi. Et en fait, j'ai été repérée avec ces deux objets-là, plus un autre qui était des boîtes à musique en bois, murales, qui étaient rebrodées au coton en fait. J'ai été repérée sur ces trois objets par une personne sur Milan qui m'avait proposé d'intégrer son showroom lors de la Design Week. Donc c'était en avril 2012, peu de temps après la création de Georges. Et du coup, ça a commencé comme ça, dans le monde de l'enfant en fait.
D'accord. Et après, vous avez continué, comment vous avez fait évoluer la marque ?
Mes enfants n'aimaient pas beaucoup ce que je faisais. Non, mais le monde de l'enfant était trop petit pour moi. Bon, peut-être que ça ne l'est pas pour d'autres, mais en tout cas, je ne m'éclatais pas assez dans l'enfant. Pour moi, c'était trop restreint. Je me suis posée, je me suis dit j'ai envie de faire tout pour la maison en fait. Donc toujours une envie de pièces nomades, qu'on puisse balader du salon à la salle de bain. J'aime bien les maisons qui vivent et qui changent de couleur un peu tout le temps, de décoration également. Donc j'ai fait une nouvelle gamme plus large.
Oui, d'accord. Alors, on va parler de cette suspension iconique. Racontez-nous l'histoire de la suspension pâle.
Alors en fait, pâle vient à la base de paravent que je faisais en rotin, en laiton et en étamine de coton que je peignais à la main. L'idée de ces paravents, c'était comme des espèces de grands nuages qu'on pouvait mettre en set de plusieurs pièces d'environ 60 à 80 cm pour contrecarrer un peu la mode du rideau ou séparer des grands open space. Et je les avais présentés séparément du coup à maison et objet, donc il y a un petit moment, au tout début où je faisais maison et objet. Et après, je me suis dit, ça serait intéressant de travailler cette matière différemment, apprendre à maîtriser le rotin par des bains, par une manière de le réchauffer, de le sécher par la suite. Et l'idée d'en faire une lampe m'a plu. Donc je me suis inspirée des ventilateurs qu'on retrouvait dans des hôtels un petit peu surannés, vous voyez, un peu exotiques, voilà, ce genre de choses. Et s'est posée après la question du nombre de pétales, vu qu'après j'avais une espèce de forme assez ronde. On était parti à la base sur 5 pétales, mais ça ne suffisait pas. Bref, après on a vraiment travaillé l'esthétique, mais toujours en gardant du coup les matières du paravent, donc l'étamine, le rotin, plus le laiton pour l'ossature.
Donc le rotin, il est où ? Il est courbé en fait ?
Il est courbé, tout à fait. Nous, on le reçoit en gerbe. Et ensuite, on le baigne pour lui donner la forme qu'on veut. On le force sur cette forme de pétale. Et ensuite, la forme sèche ainsi et reste en pétale.
D'accord. Et le pétale, c'est du coton ?
C'est ça, tout à fait. C'est une étamine de coton. C'est l'ancienne toile à beurre. Donc, c'est une étamine qu'on achète en Normandie. Le coton n'est pas normand, mais le tissage est fait en Normandie. Et qu'on peint nous-mêmes à l'atelier, en fait.
Oui, c'est ça. C'est une lampe à la base qui est fabriquée à la main.
Tout à fait, tout est fait à la main. Nous, on reçoit les matières premières, donc les rouleaux de tissu, le rotin, je vous dis, en gerbe de 25-50 kilos, et le laiton également en tube de 4 mètres. Donc on fait tout le travail de perçage, de pressage. Pour le rotin, c'est le travail de trempage. Et le tissu qu'on reçoit de couleurs naturelles, moi j'ai développé une gamme de couleurs qui me plaisent beaucoup. Donc on a 11 couleurs, et donc ces 11 couleurs, on les fait à la main. Donc c'est des peintures à base d'eau, qui sont avec des pigments synthétiques ou naturels, selon ce que j'ai trouvé. Et tout est fait à Méritain dans notre manufacture.
Et donc c'est teinté, la peinture ?
C'est peint.
Qu'est-ce qui est peint alors du coup ?
C'est le tissu est peint
en
fait.
C'est le tissu que vous peignez, il n'est pas teint ?
Non, il n'est pas teint, c'est peint.
D'accord, j'avais jamais entendu, c'est une technique qui est connue ?
Ben écoutez, j'en sais rien. J'ai essayé, parce que si vous voulez, moi je voulais vraiment mes couleurs à moi. Et donc j'étais allée voir sur Lyon, au tout début, des tisserands qui teignent justement avec des couleurs, des pigments naturels, et puis avec tout un système de recyclage, donc était... Des eaux usées, donc qui avaient une dynamique assez chouette en termes d'écologie. Et en fait, on a commencé avec leur rouleau à eux, et le tissu avait un après qui me plaisait pas du tout. C'était un peu presque satiné, j'aimais pas. Il y avait pas l'aspect brut que je voulais. Donc, on a essayé de les bomber. On a essayé d'utiliser des pistolets à peinture. Avant, moi, quand je travaillais dans le monde plus de l'enfant, donc je faisais beaucoup de teinture, et puis c'est ma formation aussi. Mais il y avait des marbrages. Bon, c'était pas régulier, ça me plaisait pas. Et donc, bref, de fil en aiguille, on en est arrivé au bon vieux pinceau.
Ah oui, c'est
donc,
marrant.
C'est de la peinture.
D'accord. Je crois qu'on peut choisir aussi la longueur de tige.
Tout à fait.
On le choisit au moment de l'achat. Comment on sait ce qu'il nous faut comme longueur ?
Donc déjà, on a plusieurs tailles en termes de diamètre de lampe. Donc on a des grandes qui font 120. Et des plus petites, on va dire, qui font 80. Donc, selon la grandeur du pétale, vous avez un retombé de la lampe qui est plus ou moins grand. Donc, par rapport à ça, ensuite, vous, par rapport à votre projet d'aménagement, si c'est au-dessus d'une table à manger, au-dessus d'une table basse, dans un couloir, dans une montée d'escalier, vous voyez un peu avec ces 20 à 30 cm de retombée de pétale, la longueur de tige qui vous convient. Après, on a tout un service clientèle qui est dédié aussi au conseil pour cette fameuse longueur de tige.
Et les pétales sont orientables ?
Non.
Ah non,
non,
ça j'ai
pas
rêvé.
Vraiment. Je pense qu'on peut le faire légèrement, mais après, ça peut faire vriller le tissu, en fait.
Oui, non, c'est pas du tout l'objet.
Oui.
Ok. Je voulais vous demander, depuis, on a quand même vu beaucoup de copies quand même, de cette lampe. Comment vous le vivez ?
Mal.
Enfin, je me doute, mais...
Oui, parce que c'est je vous dis, les paravents, bon, je ne sais pas combien de temps prennent les autres designers pour arriver du dessin jusqu'à l'objet final, mais j'ai mis plusieurs mois pour penser cette lampe à partir, comme je vous disais, de mes paravents. Et j'étais tellement heureuse du final, du rendu, de le présenter. C'était à maison et objet. De travailler les couleurs, de travailler les matériaux, savoir l'épaisseur du rotin qu'il nous fallait pour que ça soit et minimaliste et pas grossier, léger, sans être trop... Voilà, il fallait pas que ce soit trop ethnique non plus, vu que le rotin est exotique. Bon, bref, voilà. Non, je le vis très mal, là, c'est évident. Non, c'est quelque chose qui m'embête quand même, que je trouve pas juste, en fait. Voilà, je peux comprendre qu'on puisse essayer, pourquoi pas. Continuer dans ce chemin-là de la copie, ça me touche beaucoup.
Mais si le modèle est déposé, justement, comment on peut retrouver comme ça dans d'autres marques des modèles qui sont assez semblables ?
En fait, c'est pas. Bah après, tout est une question de droit à propriété intellectuelle. Donc là, c'est de l'ordre. C'est purement juridique, en fait. Donc c'est des débats sur des petits détails, sur le préjudice subi, sur le fait que maintenant on est une grosse, entre guillemets, entreprise et que si on est copié par un plus petit, peut-être que finalement le préjudice n'est pas si grand que ça. Mais quand bien même, je veux dire, à la base, c'est mon objet. C'est mes couleurs, c'est pas mes couleurs, j'ai pas inventé ces couleurs, je veux dire, mais j'ai travaillé pour cette harmonie de couleurs-là. ça me, voilà, pour moi, c'est une injustice. Voilà.
C'est un vrai sujet.
Ouais. C'est peut-être un mot très, très fort, mais c'est, je le ressens comme ça, en tout cas.
Oui, je comprends. Comment on crée, vous avez créé depuis d'autres luminaires, notamment Petite Carambole.
Oui.
Comment on crée un nouveau luminaire après un tel succès?
Parce que j'ai plein d'idées, en fait. Donc, je dessine tout le temps. Et je suis, une fois que quelque chose fonctionne, j'en suis plus satisfaite. Donc, voilà, les idées viennent assez nombreuses. Et le plus difficile pour moi reste de me limiter dans un nouveau projet. Donc là, voilà, je me fixe sur la carambole. J'essaye de ne pas dériver sur un troisième luminaire, vous voyez. Donc voilà. Et pour la carambole, en fait, l'idée de cette lampe était de partir des dormeuses, vous voyez, des boucles d'oreilles,
ouais,
qui sont doubles avec avec la nuque qui ressort. Je trouve ça très très élégant, une boucle qui tombe comme ça. Et j'imaginais ce double pendant pareil au plafond avec deux abat-jour, on va dire, tout en longueur et pareil très fin, tout en laiton, comme un bijou en fait.
Et en parlant de bijoux, vous faites des bijoux de mur, vous vendez aussi des photographies, des petites étagères, des vases. Comment naît l'envie de chaque objet? Est-ce que vous fonctionnez par collection, par exemple, ou
Non, pas vraiment. Je fonctionne, en fait, pour moi, par rapport à mes besoins. Est-ce que j'ai envie chez moi? Est-ce qui me plairait? Un mur vide? Est-ce qu'on le laisse vide? Est-ce qu'on y met un tout petit truc, un tout petit élément au-dessus d'un mur, au-dessus d'un lit, pardon. Est-ce qu'on met une tête de lit un peu classique? Est-ce qu'on met plus quelque chose, un mur tout plein de petits objets. Voilà, je m'assois et je vois un petit peu chez moi ce que j'aimerais. Et du coup, ne pas saturer avec une seule matière. Associé, par exemple, j'aime beaucoup le laiton, mais j'aime aussi beaucoup l'aluminium que je suis en train de développer là en ce moment. À quoi on associe ce type de matière? Donc avec un bois, avec un tissu peint, avec des tissus chinés, voilà, tout grandit comme ça.
Oui, vous aimez beaucoup la matière, les matériaux naturels. Vous
oui.
Parlez tout à l'heure de produits qui sont sourcés localement.
Oui.
C'est quelque chose d'important pour vous. D'où ça vous vient et en quoi c'est si important?
En fait, quand j'ai commencé Georges, je me suis dit, bon, si ça marche pas, c'est pas très très grave, je vais pouvoir faire ma marque toute seule, fabriquer et vendre derrière, et puis ça sera déjà très bien. Si ça marche, je pourrais plus fabriquer toute seule. Donc là, j'ai deux options. Soit je sous-traite, donc si je sous-traite, c'est en France ou à l'étranger, soit je ne sous-traite pas, et à ce moment-là, il faut que je constitue une équipe. Et c'est ce choix que j'ai fait. Et du coup, c'est une autre aventure, hein, mais c'est très, très enrichissant, parce que maintenant, vous voyez, moi, j'étais très, très fière de ma palle et puis de tous les objets qui sortent, on va dire, de ma tête, au final. Mais maintenant, si vous veniez nous rendre visite à Méritain, où il y a notre manufacture, chaque pièce faite est la pièce de la personne qui l'a fait. Il y a un vrai investissement pour chaque objet fait, vu que tout est fait chez nous de A à Z. Donc chaque personne l'a fait également de A à Z, et elle s'approprie cet objet.
Comment vous trouvez les matériaux, s'ils sont sourcés localement? Comment vous faites?
Je vais toujours au plus près, donc j'essaye d'aller à la rencontre de mes voisins, hein. C'est vraiment un travail de voisinage. Donc c'est vrai qu'à côté de chez nous, il y a Mauléon, qui est une petite ville où il y avait de la fabrication d'espadrilles, donc pour tout ce qui est cordes, pourquoi pas. Et un tel me renvoie vers un tel, et ainsi de suite, et je peux comme ça avoir un petit réseau local. C'est un réseau quand même que j'agrandis, parce que je ne trouve pas tout au niveau local quand même. Il faut pas se mentir par rapport à ça. Par exemple, le rotin, il vient d'Indonésie. Je crois que c'est le seul fournisseur au monde de rotin. Donc après, le reste, voilà, j'élargis mon cercle jusqu'à, on va dire, les limites françaises, si je peux.
Et par contre, sur la fabrication, elle est 100% française.
Tout à fait, oui, chez nous. C'est ouais. nous qui la faisons, de A à Z.
Et d'où vient cet amour de l'artisanat?
Mes grands-parents sont du côté paternel, sont artisans. Donc ma grand-mère était tapissière d'ameublement et mon grand-père était joaillier, bijoutier joaillier. Donc j'ai grandi, c'était assez chouette parce que mon grand-père avait des gros rouleaux de gourmettes, vous voyez, il avait des centaines de mètres de gourmettes. C'était assez incroyable. Et ma grand-mère, avec ma grand-mère qui avait tout son atelier de couture, avec ses rouleaux de tissu, on allait, on était sur Paris à l'époque, on allait au marché Saint-Pierre. Moi, je dessinais des robes ou des choses dont j'avais envie. Et après, on patronnait ensemble et on cousait. voilà, quand j'étais toute petite et puis adolescente, c'était un peu... Après, bon, j'ai continué toute seule à coudre, voilà. Mais...
Vous avez fait une formation autour de...
Non, de la couture, non. J'ai appris petite, en fait.
Non, mais pas forcément la couture, même autour de l'artisanat ou pas forcément. Quel est votre parcours avant d'avoir créé Georges ?
Mais en fait, je viens plus du social. Donc, j'ai travaillé auprès d'enfants malades et polyhandicapés pendant plusieurs années, avec l'Institut Curie, notamment. Quand, du coup, j'ai eu mes enfants, j'ai plus été capable de faire ça. J'étais plus du tout aidante, donc c'était trop difficile pour moi. Et du coup, j'ai suivi une formation à l'École des Beaux-Arts, mais en amateur, en cours libre, en fait. Donc, autour de tout ce qui était technique d'impression. Donc, d'où, voilà, bon, j'ai appris la gravure, la sérigraphie. Tout ce qui est teinture, c'est venu après avec le travail des pigments. Et voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans avant de créer Georges.
D'accord. Ah, vous parliez de la manufacture, donc en fait, ça se passe où?
C'est Méritain, hein, c'est ça. Ouais. Donc tous nos objets en fait sont faits effectivement donc à Méritain. Méritain est dans le sud-ouest de la France, dans le Béarn, et on a une boutique qui est à Bayonne, donc dans le Pays Basque, qui est également une boutique atelier, donc où il y a également de la confection. Donc sur Méritain, on y est depuis juillet 2020. Et en fait, c'est un ancien château que j'ai, qui était pas en pleine forme, on va dire, que j'ai acheté l'année dernière, en plein confinement. Et donc, on y a déménagé après le premier confinement, voilà. Donc, on y est depuis peu, et maintenant, il y a 35 personnes qui y travaillent.
Oui, j'allais vous demander combien vous étiez.
On est 40 en tout maintenant.
Ouais. Et vous êtes de cette région
ou... Non, pas du tout. Moi, je suis née en banlieue parisienne, et j'ai grandi dans le sud-est de la France, dans le Var ailleurs.
Donc, d'où vous vient cet attachement là pour le Pays Basque, de tout faire là-bas?
Ben, j'y suis allée on y a déménagé pour des raisons personnelles, et puis mes enfants sont nés là-bas, et c'est je suis très bien là-bas, même si le soleil du Var me manque.
Oui, un peu moins chaud. J'ai vu que vous faisiez du linge aussi.
Oui, tout à fait. Donc, c'est une collection que j'ai commencée, je pense, cet hiver. Donc, l'idée, moi, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est de récupérer du linge ancien. C'est ce que je fais depuis bien une quinzaine d'années. Donc, j'ai des quantités pas possibles de linge, que ce soit des motifs ou des draps, en fait, hein, tout simplement. Donc, du métis, des belles matières un peu rugueuses. Donc, c'est vrai que c'est du brut, hein, donc c'est pas du satin de coton, des choses comme ça. Et l'idée, c'était de faire une collection de pièces uniques. Donc, tout est peint à la main. Donc, chaque housse de couette, chaque housse d'oreiller est peinte sur pièce. Donc, chaque pièce sera unique. Voilà.
Il y a quelque chose de très gracieux dans vos produits. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et comment vous créez ça?
Non, je ne m'en rends pas compte du tout. Non, en fait, si vous voulez, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai plein d'idées d'objets, de meubles, même de maisons. Là, on est en train de fabriquer une maison nomade pour la Design Week de Milan. Une collection de meubles de jardin, de rideaux, de pans de mur. Bref, j'ai plein d'idées. L'idée, c'est que quand je pars du dessin jusqu'à une pièce finie, si elle me plaît, c'est le seul de mes critères, en fait. J'essaye de pas partir dans tous les sens au niveau des couleurs, parce que j'aime beaucoup aussi des choses qui peuvent être très très kitsch, et c'est pas Georges, clairement pas. Donc du coup, je peux me calmer sur des couleurs pour avoir quand même une harmonie, vous voyez, douce, voilà, de couleurs.
Et quelle est justement votre palette de couleurs, ce que vous en parlez depuis tout à l'heure? Est-ce que vous pouvez nous citer des tons?
J'aime beaucoup les couleurs terreuses. Comme je vous disais, voilà, j'ai grandi au bord de la mer, dans le Var, et on allait souvent en Italie avec mes parents quand j'étais petite, ou se promener sur la côte, sur le bord du littoral. Donc c'est ces couleurs de pierre, de façade un peu ternie. Voilà, des ocres, des choses comme ça, c'est ces couleurs-là que j'aime.
Et c'est ce qui définit la marque aussi.
Oui, je pense, ouais. Voilà, oui.
Vous avez lancé une deuxième marque qui s'appelle Soma. Pourquoi une deuxième marque et pourquoi un nom différent?
Alors, l'idée, en fait, c'était de fabriquer des meubles. Et je voulais des meubles, là, pour le coup, où il y avait une exigence dans le sourcing encore plus important. C'est-à-dire que vraiment, là, tout vient... du local, c'est archi-local. Donc presque, je pourrais aller à pied chercher le bois de Soma, vous voyez. Et tout ça, ça me faisait penser à une autre entité. J'avais envie d'une autre entité pour aller vraiment plus loin dans la démarche déjà engagée avec Georges. Donc, le soma s'est imposé un peu de lui-même parce que c'était pour moi le retour au corps, à la matière, à quelque chose de vraiment encore plus minéral dans la matière ou plus végétal. Bon, bref, quelque chose de plus fort que Georges. Et soma, je trouve, caractérise bien ça.
Alors, qu'est-ce que vous proposez avec soma ?
Donc, des meubles. Donc là, pour le coup, c'est une collection bien précise par année. Et une collection est égale une pièce de la maison. Donc on a commencé, c'est une marque toute jeune puisqu'on l'a commencé en 2020. On devait la présenter à la Design Week 2000 l'année dernière. Bah non.
Voilà.
Donc on est parti, on a présenté de manière virtuelle quand même, mais très peu. On va présenter la collection 2, là, du coup, à la Design Week 2000 en septembre, donc du 5 au 10. La première, c'était autour de la salle à manger, la première collection. Et la seconde, ça sera autour du salon. Donc, toujours avec une pièce un peu maîtresse. Donc, pour la collection 1, c'était autour d'une table, qui était une table avec un pied tout en rotin tressé et avec un grand, grand plateau laqué, un peu rouge baisé, on va dire. Et là, pour la collection numéro 2, c'est autour d'un secrétaire. Donc, c'est un meuble à système qui tourne sur lui-même et dont les éléments sont dissociés les uns des autres. Donc, c'est 6 blocs, si vous voulez, qui sont cintrés sur l'arrière et qui tournent voilà, sur eux-mêmes.
Vous diriez que c'est un petit peu plus luxe ? C'est pas forcément le mot, je pense que...
C'est plus haut de gamme, quand même, au niveau... Oui, c'est assez péjoratif, du coup, de dire ça par rapport à Georges. Parce que Georges est noble, quand même, pour moi aussi. Mais oui, c'est un peu plus haut de gamme, quand même. C'est un peu plus luxe, tout à fait.
Comment ça veut dire quoi, soma ?
Soma, c'est corps en grec.
Je lisais dans un article que vous vouliez réinventer le salon rustique. Vous me confirmez ça ? Rustique, c'est un terme qu'on essaye un peu d'oublier ou vous
Alors,
essayez
je crois
justement
que je
de
l'ai
le
dit,
remettre
Je crois que j'ai dit ça. Par rapport au côté brutaliste, j'aime bien l'aspect très radical de cette période dans le design ou l'architecture un peu voilà béton bois massif. Et c'est vrai que c'est une sorte de rustique, mais sans le côté on va dire chalet de montagne, voilà. Donc c'était prendre le contre-pied de ce qui pouvait se faire. Et j'aime aussi le côté rustique par rapport aux arts populaires. Vous voyez qu'on peut trouver avec des bancs de ferme de ce genre-là, où il y a des formes très très simples en fait, qui sont incroyables, qui sont très efficaces en termes d'esthétisme.
Quel est votre regard sur le monde de la déco, du design aujourd'hui, sur le marché même ?
Moi, j'aime plus ce qui s'était fait avant. J'aime pas. J'ai beaucoup de mal avec les intérieurs trop propres entre guillemets quand le design est trop radical, quand les lignes sont belles, mais c'est tellement froid. Voilà, je trouve ça froid. Donc, je préfère des pièces anciennes, même si elles sont un petit peu tapées. Et j'essaye du coup dans les pièces que je fais de voir les irrégularités. Et que si vous venez, vous achetez par exemple une table chez nous et qu'il y a plusieurs tables, bah vous aurez votre table. Parce que celle-ci, elle aura un nœud à cet endroit-là ou elle aura... voyez, on voit la matière dessous. Et parfois, dans le design contemporain, je trouve qu'on ne la voit pas assez. C'est tellement parfait que finalement, même si ça peut être une pièce unique, elle est trop froide pour moi.
Ouais. Vous ouvrez un nouveau showroom là, à Paris ?
Oui.
Pourquoi à Paris maintenant ?
On a beaucoup de clients sur Paris et l'idée, c'est de développer nos boutiques en propre. Donc, on a ouvert à la maison, on va dire, à Bayonne, vu que c'est à côté de notre fabrique. L'idée de Paris, c'était le premier pas vers d'autres ouvertures de boutiques. Donc, ça nous semblait cohérent après dans notre développement.
Et donc, il y aura Soma et Georges.
C'est ça, il y aura Soma et Georges. Donc, c'est un local qui fait 185 mètres carrés, qui est sur cours. Donc, ça va être dans un premier temps sur rendez-vous. On verra après pour faire venir du monde. Et la particularité de ce local, c'est qu'il y a également un appartement, un petit appartement sur l'arrière, qui sera également meublé et accessoirisé qu'en Soma et Georges, avec des pièces chinées également pour donner un petit peu de chaleur.
Vous habitez dans à côté de la manufacture, dans ce château ?
Non, j'y étais sur le premier été pour faire les premiers travaux d'aménagement avant que l'équipe arrive. Donc, on a vécu en été à la campagne avec mes garçons. Et non, maintenant j'habite, voilà, on est ailleurs.
Ouais, à quoi ça ressemble chez vous ? C'est comment ?
Alors,
c'est quel style ?
C'est une maison des années 70, c'est une maison d'archi des années 70, très atypique parce que c'est une maison de plein pied, mais où il y a des marches de partout. Donc on descend, on monte tout en longueur. Donc avec voilà cette chaleur que j'aime, des fenêtres en bois, des doubles plafonds, un salon en contrebas avec une cheminée comme on peut retrouver dans d'autres maisons de ces années-là.
Quelle est votre pièce préférée chez vous ?
Je pense que c'est mon salon justement, parce que c'est un salon qui est ouvert avec une mezzanine où il y a ma chambre. Donc quand je suis toute seule, en fait, je pourrais vivre que dans cette partie de la maison. Vous voyez, il y a tout. Donc il y a les livres, il y a mon piano, il y a le salon, la cheminée pour le feu et ma chambre dessus.
Vous achetez souvent de la déco ?
Oui.
Quel est votre dernier achat par exemple ?
Mon dernier achat, j'ai racheté un fauteuil loop de Willy Gull. Voilà, pour la boutique. Mais je me fais rarement des achats pour moi, donc j'achète pour Georges.
Ouais. Et chez vous alors ?
Et chez moi, le dernier achat que j'ai fait chez moi, oh, je ne sais pas du tout. J'achète beaucoup de livres pour moi, ça serait plus des livres.
Ouais. C'est bientôt les vacances, quand on habite dans une jolie région comme la vôtre, est-ce qu'on part quand même ?
Oui, là, cet été, je pars dans le sud-est.
Ah oui, vous allez de l'autre côté ?
Oui, je vais à Biot et Valoris, en fait, pour faire des... Donc, c'est un voyage utile, en fait, pour faire des collaborations autour de ces matières-là, en verre et en céramique.
Oui, c'est tout le temps, vous êtes tout le temps en train de travailler, de réfléchir à des nouvelles inspirations, c'est constamment ?
Oui, c'est ça. Et j'associe les vacances à ces moments-là parce que j'amène mes enfants et ils peuvent découvrir comme ça des savoir-faire incroyables, des ateliers. Moi, j'ai vécu un peu comme ça enfant, donc c'est quelque chose que je dois reproduire aussi. Mon père avait, quand j'étais petite, avait une période, un magasin d'artisans locaux dans le centre-ville de Hyères. Et du coup, ils m'emmenaient voir le potier, voir le tisserand. Et c'était incroyable, les odeurs, les savoir-faire. Voir quelqu'un qui, d'un tour à poterie, en 5 minutes, hop, fait un vase. J'étais hallucinée. Donc à chaque fois, j'amène mes enfants. Et là, on va voir du coup les souffleurs de Biot, comment on fait un flammé à Valoris, ce genre de choses.
Qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous détendre, justement? Ce sont des activités plutôt manuelles ou vous l'avez déjà dans votre métier?
Pour me détendre, je dessine.
Ah oui.
Je dessine, je joue au piano.
Et pour Soma ou Georges, ou pas forcément ?
Si, toujours. Toujours. Je m'essaye un peu à la peinture en ce moment, parce que j'aimerais faire des toiles, peindre. Mais j'ai un souci avec les assortiments de peinture, donc je suis qu'au début, on va dire, de ça. Je ne suis pas satisfaite de moi.
De vous encore. Vous avez un univers qui est assez bien défini, qui est assez clair. Qu'est-ce que vous pensez d'Instagram ?
Ah, j'aime bien.
Ouais, ça vous inspire ou au contraire, vous pouvez vous dire, vous disiez tout à l'heure, les intérieurs peuvent se ressembler un peu ?
Je prends Instagram un peu comme une bibliothèque géante. Donc, j'enlève souvent des gens, des profils.
Ouais.
Et je suis abonnée à beaucoup de comptes d'architectes pour voir leur travail, des personnes qui voyagent pour voir des prochains lieux où on pourrait partir avec mes enfants. Voilà, j'oriente finalement mes recherches. Donc, je ne suis pas abonnée à beaucoup de personnes, mais voilà, des personnes qui m'inspirent beaucoup.
De qualité, oui.
Tout à fait.
Et ben, merci beaucoup, Mylène.
Je vous en prie, merci à vous.
Bonne journée. Au revoir.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, c'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.